Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Il y a les habitués, certains de très très longue date, les plus ou moins nouveaux, il y a ceux qui nous suivent en streaming, alors bienvenue également, j'espère que ça fonctionne de votre côté. Et puis peut-être que vous débarquez sans trop savoir pourquoi. Alors bienvenue à tous, moi je vous accueille au nom de l'équipe qui a préparé ce culte, mais surtout au nom de notre Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Père, au nom de son Fils Jésus, qui nous invite à le retrouver ce matin. Il nous accueille dans ce lieu, il nous accueille dans sa présence tous ensemble, pour le chanter, le louer, pour l'écouter, pour le prier, simplement être avec lui, grandir avec lui par son esprit. Il fait encore un petit peu frais ce matin, mais on se réjouit plutôt de... par rapport à la canicule, tu vas voir, c'est quelque chose. Hein. On en reparlera cet été. Mais là, il fait encore frais, il ne fait pas encore trop chaud. Et surtout que ça fait du bien, surtout pour un week-end avec un congé en plus. Et on fête la Pentecôte. C'est pas juste un congé. L'Esprit de Dieu descend sur ses disciples. La vie de l'esprit se manifeste de différentes manières dans les églises. Dans certaines églises, ça bouge beaucoup, ou en tout cas un peu plus qu'ici. Dans d'autres, c'est peut-être quelque chose qui se montre encore moins. Aussi dans nos vies personnelles et notre relation avec Dieu, ça peut changer. Même au fil de notre cheminement de foi, des années, de nos saisons, comment l'Esprit de Dieu se manifeste-t-il? Alors on reprendra avec Philippe et puis la prédication, le texte d'Actes 2, les langues de feu, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite vivre, auquel j'aspire? Est-ce que j'y suis réceptif? Dans la Bible, on voit que l'Esprit est donné, alors je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, s'il est donné, à des personnes historiques, des fois des leaders importants, des prophètes, des juges, des rois, même des rois qui finissent pas très bien, par exemple Saül, loin, reçoit l'Esprit. Il est mis avec les prophètes. Certains qui reçoivent l'Esprit sont des fois le plus jeune, le plus petit de la famille, du plus petit camp, pas très important. Il est même donné à des artisans, pas des rois, des leaders, des personnes importantes, oui, importantes quand même. Et il est donné aux apôtres. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ben cet esprit, il m'est donné à moi aussi. Alors, il se manifeste de manière des fois un peu différente. Mais le but, c'est de pouvoir annoncer, démontrer la parole et l'action de Dieu dans nos vies. Mais c'est aussi de pouvoir vivre sa présence et de pouvoir appeler Dieu, notre Père. Alors je vous propose de prier. Seigneur, merci de me permettre d'être là ce matin. Merci de nous permettre d'être là, rassemblés, de nous donner ce lieu, ce cadre dans lequel nous pouvons nous retrouver pour ce culte. Merci parce que tu es là, présent avec nous, par ton esprit. Des fois, on se sent pas à notre place pour différentes raisons. Et parfois, on sent ta présence, on voit tes actions autour de nous et en nous. D'autres fois, rien. Seigneur, tu nous accueilles, tu te réjouis de notre présence. Et malgré tout, tu as quelque chose de prévu pour nous, en Église, chacun individuellement. Donne-nous la patience qu'il faut quand il faut être patient. Aide-nous aussi à ne pas nous gêner des fois d'insister auprès de toi ou d'agir quand c'est le moment. Nous voulons t'élever ce matin, te louer, recevoir de toi ta parole et ton esprit. Alors conduis ce temps dans ta présence. Nous nous plaçons devant toi, entre tes mains. Amen. On va continuer avec un temps de louange. Merci à l'équipe. Yes.
Oui, nous voulons louer le Seigneur qui veut nous retrouver, qui veut nous venir à notre rencontre. Et nous, est-ce que nous voulons venir à sa rencontre ? Alors, j'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez en tout cas eu envie de venir à l'église, mais j'espère surtout venir rencontrer notre Père. Ouais. Et quand on rencontre notre Père, est-ce qu'on voit notre Père ? Est-ce qu'on voit Dieu ? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu ? Non, hein ? Je crois pas, hein ? Pourtant, depuis des générations, on cherche à voir Dieu. Au mois de mars, vous savez, il y a une fusée qui est partie, qui est allée faire le tour de la Lune, et puis qui est revenue sur Terre, avec 4 astronautes dedans. Vous avez entendu parler de ça, les orages ? Oui ? Et puis, est-ce qu'ils ont vu Dieu ?
Dans le ciel ?
Ils l'ont peut-être rencontré, mais pas vu. Enfin, s'ils l'avaient vu, à coup sûr, on aurait eu un selfie avec le retour. Et regardez, je suis avec Dieu. Mais non, il ne joue pas à cache-cache. Il n'est pas caché derrière la Lune, je crois. Mais on peut le voir d'autres manières. Et ces astronautes, ils nous ont quand même envoyé des photos magnifiques de la Lune avec en arrière-plan la Terre. Moi, je trouve ça juste incroyable. J'ai mis ça comme fond d'écran sur mon ordi. Parce que, non pas que je veux vénérer la Lune ou la Terre ou la fusée, mais je vois au travers ces photos, je vois la main de Dieu qui a créer ça. Et notre Dieu est un Dieu créateur. Et à travers la création qui se développe à fond ces jours, eh bien, on peut voir la main de Dieu. Et pourtant, une grande partie de l'humanité refuse de reconnaître que Jésus est Dieu et que Dieu est venu pour chacun d'entre nous. Mais Dieu, il a envoyé Jésus pour qu'il puisse se révéler à nous, en commençant par les plus faibles, par les enfants, par les pauvres, mais toute personne qui reconnaîtra comme Seigneur. Et je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, la foule qui vient d'entendre des paroles de Jésus, qui l'ont un peu interpellé, questionné, la foule dit, fit cercle autour de Jésus, et puis lui dit et l'interpelle, « Mais combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ?» Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. Jésus répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Dieu veut rencontrer chacun, chacune. Et il invite tous les jours ceux qui souhaitent le rencontrer. Alors chantons maintenant cette louange à notre Dieu, gloire à son nom. Chantons-le et je vous invite à vous lever.
Jésus fut meurtri pour moi. Thank you.
La lune me glace et le soleil me menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul es ma force. Toi.
Pour la suite, les enfants vont continuer le culte avec les potes. Merci à Nicolas pour ta présence et ton engagement. Mais on va prier encore ensemble pour vous et pour nous, pour vous les enfants et pour nous. Merci Seigneur de pouvoir te chanter, te louer et t'adorer toutes les générations ensemble. Ces paroles qu'on vient de chanter, elles sont vraies pour chacun de nous. Qu'on ait des années de vie avec Dieu ou pas, qu'on soit petit ou grand. Tu nous invites à nous remémorer, à redire, à partager tes enseignements, ta bonté et toutes les choses importantes que tu as faites dans la Bible, mais aussi à témoigner de ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Aide-nous à réaliser combien tu es présent et tu donnes de bonnes choses. Même si des fois ça reste difficile. Alors que tu gardes Nicolas, que tu gardes les potes dans leurs activités, dans la suite de ce culte, et que tu nous conduises chacun aussi à ta suite dans la présence de ton esprit. Amen. Potes, je vous laisse descendre. Puis nous allons continuer avec un temps de scène maintenant. Dans le calendrier chrétien, il y a Noël, la venue de notre Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, comme un bébé qui va grandir, devenir un enfant, un adulte, et vivre parmi le peuple. Drôle de manière pour le Dieu créateur de se manifester. Ensuite, il y a Pâques. Pâques où ce Sauveur, ce Dieu avec nous, accomplit son œuvre. Non pas en faisant une révolution politique ou militaire, mais en faisant une révolution dans le ciel et dans nos cœurs. Drôle de manière à nouveau pour le Dieu saint et tout-puissant de se manifester. Et pourtant, il y a une logique là-dedans. Des fois, difficile à saisir, mais il y a une logique là-dedans. Nous qui étions séparés de Dieu, coupés de lui, condamnés sans pouvoir y faire grand-chose, eh bien, il donne sa vie pour nous racheter, pour nous adopter comme ses propres enfants. Non par nos efforts, nos qualités, mais simplement par sa grâce. Pour que personne puisse se glorifier de cela. Alors que son esprit nous permette de saisir ça à notre échelle. À Pâques, justement, Jésus nous invite à cette table, ce temps de repas où nous partageons ce pain, ce vin. Et pendant le repas, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le règne de mon Père. »
Cher Seigneur, nous nous trouvons devant cette table, ce pain, ce vin, et nous nous souvenons que ta mission a été accomplie à la perfection. Merci. Merci pour ce que cette mission accomplie ouvre comme perspective pour nous. Être réconciliés avec Dieu. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais de nous avoir accordé ton Esprit Saint qui habite en nous. Merci pour les perspectives que cela ouvre, pour tes promesses tenues et pour ce que nous attendons encore. Ce jour où nous serons près de toi, avec les multitudes qui nous ont précédés et nous suivront peut-être, et où nous pourrons honorer l'agneau qui a donné sa vie. Pour ce matin, nous voulons prendre ce repas avec beaucoup de reconnaissance dans le cœur, en particulier celle liée à faire partie de ta famille. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, nous allons passer avec les plateaux, les paniers, si trois personnes peuvent nous aider pour ce temps. Merci. après avoir partagé ce repas avec ses disciples, après être passé par la croix, tu es revenu à la vie. Tu t'es encore manifesté aux croyants plus ou moins croyants, plus ou moins surpris. Et moi aussi, des fois, j'ai de la peine à croire, de la peine à mettre en pratique ce que tu as dit, ce que tu as accompli et ce que tu nous invites à vivre. Mais après être remonté auprès du Père, ben, tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous laisses pas livrés à nous-mêmes, mais tu nous donnes ton esprit. Ton esprit qui nous permet justement de dire « Abba, Père ». Alors on va encore chanter « Saint-Esprit, voici mon cœur ».
Chacun et à chacune. Je suis très heureux de vous retrouver. J'étais un peu excité ce matin à l'idée de vous revoir après 2 semaines d'absence. Ça paraît nul, hein, 2 semaines, mais j'ai eu un dimanche de congé. Et puis dimanche passé, j'étais à Colonie, église sœur, dont je vous transmets les salutations. Et vous avez accueilli ici même ma chère collègue Véronique Alexa. Ce matin, nous reprenons aussi la possibilité des questions Slido, donc cette application qui, au cours de la prédication ou juste après, vous permet, si vous le souhaitez, de poser quelques questions ou de voter pour des questions qui vous semblent pertinentes. Et puis, on prendra un petit moment ensuite pour essayer d'y répondre. En tout cas, sentez-vous la liberté, que ce soit avec le QR code ou le numéro, de vous rendre sur l'application en ligne de Slido pour ensuite poser vos questions. Voilà, je vais laisser maintenant Joël nous lire, c'est un peu à peu près, lire le texte biblique du jour.
Alors vous l'avez peut-être déjà lu, si vous avez suivi les indications transmises.
Proposition,
oui, on va le dire. Acte 2, 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète, d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la nuit sera rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour éclatant. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée.
Merci Joël. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Pentecôte. Ça fait 26 ans que j'ai l'honneur d'être pasteur. C'est ma 24e prédication pour Pentecôte, la 9e ici. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans ce texte qu'on n'a pas déjà dit 20 fois? Comment on se laisse rafraîchir, toucher, reprendre par le texte? C'est un défi pour le pasteur, mais c'est un défi aussi pour le chrétien, la chrétienne, l'auditeur, l'auditrice. Comment on se laisse toucher par le texte? La Pentecôte peut être comprise, en particulier aujourd'hui, comme la fête du Saint-Esprit, dont nous célébrons la venue avec ce texte. Le Saint-Esprit, dans notre théologie chrétienne, évangélique, c'est une personne à part entière de la Trinité. Je suis bien conscient que ce n'est pas celui dont on parle le plus chez nous autres, mais c'est une personne à part entière de la Trinité, au même titre que Dieu le Père et Jésus le Fils. Mais avant de parler de la fête du Saint-Esprit, il faut quand même que nous nous rappelions, nous, dans notre contexte ici, que la Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'était d'abord la fête du don de la loi à Moïse, au Sinaï. C'est ça d'abord la Pentecôte, la fête du don de la loi à Moïse au mont Sinaï. Et c'est donc la raison pour laquelle ici des pèlerins sont venus de bien des endroits du monde, dont on a des fois de la peine à prononcer même le nom, et ils se rendent au temple de Jérusalem pour la fête du don de la loi à Moïse. Et cette fête n'est pas petite dans la tradition juive. Cette fête, c'est la deuxième des fêtes juives de pèlerinage, ces fêtes où on se déplace à Jérusalem. D'abord, il y a Pâques, Pessa. Nous avons été libérés de l'esclavage en Égypte et nous nous mettons en route pour fêter cette libération, disent les Juifs. C'est une fête de pèlerinage, la première, la plus importante de toutes. Puis vient la Pentecôte et après elle, la fête des cabanes. Soukhot, où on se rappelle là l'errance pendant 40 ans dans le désert. Parce que oui, être chrétien, même quand on est délivré, ça reste un pèlerinage. Et les Juifs se souviennent de ce pèlerinage dans le désert avec la fête des cabanes. Pentecôte, entre les deux. La Pentecôte, elle s'appelle Shavuot, ce qui signifie semaine en hébreu, parce que 7 semaines se sont écoulées depuis le soir de Pâques, 50 jours, ce qui donne le terme Pentecôte, issu du grec panta, 5, une fête donc, une fête, pour le don de la loi, parce que la loi contre toute attente, ce n'est pas une prison, ce ne sont pas des monottes. La loi, elle a été donnée pour que ces hommes et ces femmes libérés restent libres. C'est une loi de liberté qui a été donnée. Et c'est donc dans ce contexte festif que le Saint-Esprit se manifeste aux apôtres. Il apparaît comme des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Verset 3. Et à ce moment-là, quand ces langues de feu apparaissent sur chacun d'eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit dont ils sont, dit le texte, remplis. Et je vous propose que c'est assez original, cette histoire. Parce que jusque-là, l'esprit, que ce soit en hébreu « roua » ou en grec « pneuma », jusque-là, l'esprit, c'est le vent, c'est le souffle. Et là, il y a comme un changement de paradigme, comme. Parce que là, ce n'est pas du vent et du souffle, même s'il y a du vent qui se lève. Quand l'esprit se manifeste, il se manifeste dans des langues de feu. Ce changement d'apparence devrait, je crois, nous aider à comprendre que l'Esprit de Dieu échappe à nos représentations usuelles et convenues. L'Esprit de Dieu échappe à nos compréhensions usuelles et convenues. l'Esprit de Dieu vient transcender nos définitions. Cela indique, je crois, que nous pouvons parler de l'Esprit de Dieu, non seulement à partir de notre théologie, et vous savez que j'aime plutôt bien la théologie, en parler non seulement à partir de la théologie, mais aussi en fonction des expériences que vous et moi, nous en avons. Et cela est vrai de Dieu d'une manière plus générale. Nous connaissons Dieu par ses effets sur notre vie et non pas d'emblée par une théologie spécifique. Croire en une saine théologie, et encore une fois, je défends ça, la théo. Croire en une saine théologie, l'intégrer intellectuellement, pouvoir la défendre devant une salle de classe ou dans un bouquin, ce n'est pas encore faire l'expérience de Dieu. Souvenons-nous là de cet épisode où Moïse va faire la connaissance de Dieu. Vous vous rappelez où il fait la connaissance de Dieu ? Près d'un buisson ardent. Tiens, un buisson qui ne se consume pas, qui brûle, mais qui ne s'éteint pas. Exode 3. Et je trouve que le contexte du buisson ardent n'est pas sans rappeler ce qui se passe à la Pentecôte avec ces langues de feu qui manifestement brûlent, mais ne se consument pas non plus. Qu'est-ce qu'il va apprendre, Moïse, de Dieu, là ? Eh bien, Dieu ne va déjà pas lui dire qui il est. Ou plus exactement, il refuse de se définir Dieu. Il lui déclare, « Moïse, je suis qui je serai. Tu vas en découvrir. Si tu marches avec moi, tu vas voir qui je suis. » Dieu s'expérimente. Il ne se croit pas seulement, il s'expérimente dans le concret. Et Moïse va découvrir Dieu en observant tout ce que Dieu va provoquer dans sa vie, dans les bons et dans les mauvais jours, dans les hauts et dans les bas, tout ce que Dieu va être, va faire pour lui. Et cela va lui donner une expérience personnelle qui lui sera propre et pas normative pour les autres. Comme nous avons, nous aussi, nos expériences personnelles avec Dieu, qui ne sont ni universelles, ni normatives. Ce que je vis avec Dieu, je ne peux pas l'imposer aux autres. Vous avez votre route, faites-la. Mais demandez-vous de temps en temps, qu'est-ce que je suis en train de vivre avec Dieu maintenant ? Quand c'est tout sec dedans, ou quand je suis dans un up incroyable, ou quand c'est juste la vie normale, qu'est-ce que je vis avec Dieu ? Qu'est-ce qui m'apprend ? Qui il est pour moi ? Comment il se révèle ? Pas d'expérience normative. D'ailleurs, dans notre texte ici, l'apôtre Pierre, à la suite du prophète Joël, dit que certains vont prophétiser, que d'autres auront des songes, que d'autres encore auront des visions, etc. Donc l'Esprit nous rend capables de découvrir de différentes manières la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et la vie à laquelle Dieu nous appelle est plus ample et multiple que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu se manifeste de différentes manières. Ce qui veut dire que je ne peux pas le mettre en boîte. Je ne peux pas le confisquer. Je ne peux même pas m'attendre à ce qu'il fasse toujours la même chose dans ma vie et dans celle de mes prochains. Dieu est libre, comme le vent, comme l'esprit. Je ne peux pas le mettre en boîte. une deuxième pensée autour de ce texte. L'Esprit de Dieu suscite la pluralité. Ici, des différences, de la diversité. Le fait que l'Esprit de Dieu ne soit pas réductible à une seule apparence, à une seule forme, nous renseigne sur la foi en indiquant que notre relation à Dieu n'a pas forcément la même forme que celle de notre voisin ou de notre voisine. Nous avons chacun, chacune, une manière particulière d'être en relation avec Dieu, même s'il y a bon nombre de choses partagées, communes, des éléments qui nous réunissent, comme la table de communion. Nous nous retrouvons autour de cette table, nous partageons le pain et le vin, parce que ce qui nous réunit, c'est Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre frère, notre ami. Une église, c'est donc une assemblée de gens qui entretiennent une relation spécifique avec Dieu qui ne prend pas la même forme que les autres. De ce fait, le discours sur Dieu, la théologie, ce que vous entendez le dimanche matin ou dans les ateliers bibliques, la théologie est plurielle. La théologie, le discours sur Dieu, est pluriel. Parce que la pluralité est constitutive du peuple de Dieu. C'est même une caractéristique fondamentale. Le peuple de Dieu est pluriel. Regardez, il n'y a pas un évangile, mais quatre évangiles. Il n'y a pas une seule église primitive, mais il y a des églises primitives. Il y a la communauté de Jérusalem, il y a des Galiléens, il y a des hellénistes, des Grecs. Il y a ceux qui sont en relation avec des personnes d'origine païenne, et ça ne devait pas être simple à l'époque, d'être en relation avec des gens d'origine païenne et de leur parler de l'évangile de Jésus-Christ. Cette pluralité, les amis, aujourd'hui, elle doit être dite et défendue. Elle nous prépare à vivre cette pluralité au sein d'une société qui elle-même est plurielle, parfois en tension, mais pas d'uniformisation. Les tensions entre les communautés du livre des Actes, dont on trouve quantité de traces dans ce livre, seront surmontées par des rencontres. Des temps où les gens, dans leur diversité, se mettent à discuter les uns avec les autres. Voilà de quoi nous aider à vivre dans une église plurielle, et c'est une qualité, et de vivre dans une société plurielle qui n'est pas condamnée simplement à une juxtaposition de communautés étanches les unes aux autres ou calquées les unes sur les autres. Cela nous révèle qu'il est possible de vivre dans une église plurielle et même dans une société plurielle sans nous trouver en rivalité les uns avec les autres. Tout cela, c'est le travail de l'Esprit. Ce n'est pas rien la Pentecôte. Ce n'est pas juste ma petite vie intérieure à moi. Ça, c'est le travail de l'Esprit. L'Esprit permet une relation personnelle de chacun, de chacune avec Dieu et il nous rend capable d'engager des relations interpersonnelles avec les autres membres de l'Église, les autres membres de la société. Mais on commence ici, chez nous. L'Esprit de Dieu ne nous aide pas juste à nous accommoder d'une société faite de pluralité. Il ne nous aide pas à accepter le fait que, bon, ok, on serait tous différents, puis qu'il faut bien faire avec, un peu par dépit, purée. Bon, on est tous différents, on va essayer de faire avec. L'Esprit de Dieu, au contraire, nous crée chacun, chacune, différents, différentes des autres. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Il y a de la place pour la diversité. L'Esprit de Dieu suscite donc des églises marquées par la pluralité. Nous l'observons par la variété des expériences spirituelles que contient la Bible. Nous le constatons aussi par ce récit de Pentecôte qui vient en regard d'un autre récit pour comprendre la société humaine qui correspond à l'espérance de Dieu. et la société humaine qui correspond à l'espérance de Dieu, c'est la pluralité. Troisième idée autour de ce texte, dans la même veine, c'est que Dieu ici contrecarre tout esprit d'uniformisation. Il me semble que ce récit de Pentecôte où de multiples personnes parlent de multiples langues, c'est un récit qui vient prolonger le récit de la tour de Babel que nous lisons en Genèse 11. Acte 2 nous aide à comprendre que la réaction de Dieu à Babel, ce n'est pas une punition. Face à une population mondiale qui parlait alors une seule langue, qui avait les mêmes mots pour les mêmes désignations, qui avait pour ambition de faire une ville, une tour, de se faire un nom, Dieu vient introduire la pluralité. D'accord ? Il multiplie les langues. Pas pour punir l'humanité. Pas parce qu'il se dit, purée, ils ont voulu me rejoindre, alors je vais les exploser. C'est pas ça. Parce que c'est inscrit en nous, depuis la Genèse, de vouloir rejoindre Dieu. Mais c'est pour éviter que les gens réduisent tout à l'uniformité. Contre l'uniformisation, Dieu opte donc pour la pluralité, qui est la condition de la vie humaine. L'Esprit de Dieu contrecarre l'esprit d'uniformisation en suscitant de la pluralité, de la diversité. C'est ça la Pentecôte. Et acte 2 accomplit Genèse 11 en montrant que Dieu rend les apôtres capables d'établir des interactions positives avec la pluralité. La grande différence entre cette société de départ en Genèse 11, Babel, et celle d'Acte 2, c'est que Babel, c'était un projet de globalisation. Tout le monde devait être aligné sur une même norme, une même langue, une même ville, une même tour, un même projet. Tout le monde parle la même langue, a le même vocabulaire que tous les autres, ce qui signifie que tout le monde a le même psychisme, le même caractère, les mêmes expériences de vie. C'est uniformisé. C'est le règne de la pensée unique. Il n'y a pas de variation, pas de différence, pas d'altérité. Il n'y a donc pas de nouveauté, pas d'innovation, pas d'évolution. Tout le monde est figé sur place, que ce soit d'un point de vue géographique, Babel, ou que ce soit d'un point de vue symbolique. Tout le monde est là, empilé. Pour qu'il y ait de la science, par exemple, il faut qu'il y ait de l'expérimentation. Il faut donc qu'il y ait de l'exploration de zones inconnues, des tentatives d'autres configurations que ce qu'on a connu jusque-là. Et ces nouveautés créent de nouvelles réalités qui appellent un nouveau vocabulaire, une nouvelle langue. Et précisément dans Acte 2, remarquez que ce ne sont pas les pèlerins qui se mettent à parler la langue des apôtres. Il n'y a pas une seule langue qui serait leur langue commune, la langue de tous, une langue globale. Mais non, là ce sont les apôtres qui se mettent à parler la langue des autres. Et de là, chacun peut entendre les apôtres parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue, dans sa propre culture. Acte 2 assume la pluralité et elle l'entretient. C'est une manière de neutraliser le risque de la pensée unique. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de globalisation et il n'y a pas d'uniformisation. Vive la diversité. Une dernière idée, c'est que l'Esprit de Dieu nous met hors de nous. C'est ce que le rédacteur décrit avec beaucoup de précision dans le texte grec. Au verset 12, quand le traducteur français dit que les gens étaient dans l'étonnement, le texte grec lui dit ils se mirent à exister. Existemi, c'est le mot grec. Ça veut dire se tenir hors de soi. Littéralement, être hors de soi-même, exister enfin. L'Esprit de Dieu qui avait permis aux apôtres de mettre tout le monde hors de soi. Autrement dit, les gens se sont découverts plus grands que ce qu'ils imaginaient. Vous savez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous pète les jambes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous arrache les ailes. Je sais qu'on peut avoir dans la tradition évangélique cette image un peu austère d'un Dieu sévère qui, du ciel, nous surveille, nous limite et nous punit si jamais on a le malheur de faire un pas à droite ou de faire un pas à gauche. Il faut rester dans la ligne. Mais ce n'est pas Dieu, ça. Ça, c'est la religion. Ça, c'est le pouvoir des cultes, des religions en général, qui veulent surveiller les gens. Dieu nous met hors de nous pour qu'on se découvre plus grand, plus grande, plus capable que ce qu'on pensait être. Marcher avec Dieu, c'est sortir de nous-mêmes. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous porte au-delà de nos habitudes, au-delà de notre quant à soi. C'est ce qui nous pousse plus loin que nous, c'est ce qui nous pousse vers l'autre, celui qui ne nous ressemble pas, celui avec lequel, laquelle, je n'ai malheureusement pas grand-chose en commun. Il nous pousse même, l'Esprit de Dieu, vers celui ou celle que j'aurais tendance à éviter si je restais en moi. Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, est allé à la rencontre des personnes qui n'avaient pas bonne réputation dans la société de son époque. Et les pharisiens, les scribes, les religieux bien formés n'ont pas manqué de relever qu'ils passaient trop de temps avec les publicains, les prostituées, les gens souffrant de différents types de handicaps et qui à ce titre étaient considérés comme impurs. Mais Jésus a été au contact de ceux qui étaient considérés comme impurs. Et il leur a parlé de choses importantes. De choses qui concernaient leur identité profonde, qui concernaient leur place dans la société, leur salut et la vie nouvelle. Et c'est aujourd'hui encore ce que l'Esprit de Dieu nous appelle à vivre. Aller au contact des réprouvés, de ceux et celles avec lesquels nous ne serions pas tentés de passer ne serait-ce qu'une soirée. Parler à ceux qu'on n'apprécie pas forcément. Et mieux que cela, parler à ceux qu'on ne comprend pas, a fortiori, et dire quelque chose de la bonté de Dieu, du salut, de la grâce, et s'il le faut, utiliser des mots. C'est ça la grande promesse de Pentecôte. Dieu nous sort de nous pour aller vers les autres et pour valoriser la pluralité. Dire, comme nous le disons parfois, « je crois au Saint-Esprit », c'est donc dire oui à la pluralité que Dieu suscite dans notre vie, dans l'Église et même dans la société. Dire « je crois au Saint-Esprit », c'est accepter d'être poussé vers l'autre, cet autre dont l'Esprit de Dieu fait mon prochain, en provoquant une sorte de fraternité universelle. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Belle fête de Pentecôte. Amen. Amen. Et puis on a un interlude musical, après quoi je prends quelques instants s'il y a des questions pour essayer d'y répondre. Merci Sylvain. Il y a 7 excellentes questions. Vous avez une heure. Et merci. Hein. Là, on sort complètement de la prédication qui est un peu préparée. Et puis, on essaie de tenter des réponses en direct live. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si ça vous semble hors sol. Mais vos questions sont absolument remarquables. Ce serait cool d'être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Je dis Amen, mais je dis Amen parce que nous le sommes si nous appartenons à Dieu. D'accord ? Dans notre théologie évangélique, issue de la Réforme, nous ne différencions pas le salut du don du Saint-Esprit. C'est une seule et même chose. Quand tu es sauvé, tu es baptisé et scellé du Saint-Esprit. Immédiatement. Et puis le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans ta vie bien avant. Tu ne l'as peut-être pas vu, puis quand tu relis une histoire, tu dis, purée, là c'était l'Esprit. Mais dans notre théologie, on a le droit d'être pas d'accord avec une théologie. Hein. On n'est pas dans une théologie de Pentecôte. On n'est pas dans une théologie revivaliste. Dans une théologie évangélique issue de la Réforme, le don du Saint-Esprit accompagne immédiatement le salut. Il n'y a pas de deuxième ou de millième expérience à rechercher, c'est une seule et même expérience. Ça va ? Je tente les réponses. Hein. Après, on peut en parler. Toutes les personnes dans la salle, alors je pense qu'on parle de la salle d'acte 2, hein, avaient donné leur cœur à Jésus, sinon... ont-ils aussi eu les langues de feu ? Alors, je ne sais pas, parce qu'on est très près de l'histoire de Jésus. Les 12 apôtres, parce qu'il y en a nouveau, non, il y en a encore 11 à ce moment-là, la nomination du nouveau 12e vient après. Les 11 apôtres qui sont mentionnés, oui, je pense qu'ils avaient donné leur cœur à Jésus. Je dis juste un truc là autour, sur notre vocabulaire. Donner notre cœur à Jésus, c'est puéril, je suis désolé. Ça n'apparaît pas dans la Bible. On ne donne pas son cœur à Jésus. Et je pense qu'on devrait faire attention, même avec nos enfants, quand on dit à nos enfants, tu veux donner ton cœur à Jésus ? C'est Jésus qui se donne à nous. Puis nous, on essaye, tant bien que mal, de lui ouvrir notre vie tout entière, pas juste notre cœur, mais notre intelligence, nos tripes, nos porte-monnaies, notre sexualité. C'est pas juste notre cœur. Mais clairement, quand on ouvre sa vie au Christ, on reçoit le Saint-Esprit qui se manifeste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de différentes manières, pas que par des langues de feu. Comment puis-je faire pour parler en langue ? Est-ce possible de prier pour cela aujourd'hui afin que l'on puisse expérimenter ça ? C'est une super question. J'invite la personne qui a envoyé, transmis cette question à venir me voir. Ça va être long d'en parler comme ça, maintenant. Mais pour la faire très courte, je ne pense pas que le parler en langue soit une expression normative de notre appartenance à Jésus. Mais je vous propose d'en parler plutôt en tête-à-tête dans la semaine ou les 15 jours qui viennent, avant que je parte en vacances. Sans jugement, que penser des prières en langue ou parler en langue ? Vous voyez, la diversité des questions, c'est ça l'Église. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que je peux apprendre à prier en langue ? Et quelqu'un d'autre me dit juste après, sans jugement, que penser des prières en langue ou du parler en langue ? Et puis moi qui suis un grand jugeur dans mon cœur, pardon Seigneur, je ne suis pas capable de répondre... complètement à cette question. Mais je crois que Dieu nous offre des filtres sur cette question, sans jugement. Que penser des prières en langue ou du parler en langue ? Le filtre que nous avons dans l'Écriture, il est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11 à 14, avec des filtres très clairs sur le parler en langue et sur la prière en langue. Parmi ces filtres, il y a d'abord la question de l'édification de l'Église. C'est-à-dire, quand je parle ou quand je prie en langue, est-ce que ça construit l'Église ou est-ce que ça la divise ? Ça, c'est une vraie grande question. C'est le premier filtre. Et le deuxième filtre qui nous est proposé sur cette question, c'est la question d'un traducteur ou d'une traductrice. C'est-à-dire, les langues ne sont pas dites pour ne pas être comprises. Ce n'est pas du charabia. Les langues sont des langues qui sont données pour faire connaître l'Évangile et qui doivent être traduites. Il y a au fond de la salle, tout au fond de la salle, un monsieur qui ne parle que l'ukrainien. S'il y avait ce matin quelqu'un qui pouvait lui traduire ce que l'on se dit en langue ukrainienne, nous serions dans l'application concrète du don des langues. Chacun a une expérience personnelle de Dieu. Est-ce que ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut et que tout est bien? Un en mot? Oui. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et fuyez si on vous dit le contraire. Je vous le dis clairement. Si on vous dit tu ne peux pas faire ce que tu veux, méfiez-vous. On risque de prendre ou de vouloir prendre le contrôle sur toi. Donc oui, nous avons reçu un esprit de liberté. Un autre texte parle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, on peut faire ce qu'on veut, mais tout n'est pas utile. Dit aussi l'Écriture. Tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Il y a des trucs qui détruisent. Oui, je peux, en théorie, tromper ma femme. Ça se fait, hein. C'est fastoche. Entre les applis et les occasions, voilà, je peux. Mais si je le fais, je vais la détruire. Je vais me détruire. Je vais détruire mes enfants et je vais fracasser notre Église. Mais je peux. Je peux. Mais je ne le fais pas. Enfin, j'espère. Je ne le ferai jamais. Parce qu'on est fragile. Donc des fois, on fait des trucs qu'on ne devrait pas. Et puis on a besoin du pardon de Dieu, on a besoin de la bienveillance des autres, on a besoin de reconstruction. C'est ça l'Église aussi. L'Esprit de Dieu dans le feu, dans le vent, il est donc présent dans nos... Ah ouais, purée, super question. Il est donc présent dans nos moments de destruction et de tempête de notre vie humaine. Là, on est au cœur du cœur des trucs. Oui, l'Esprit de Dieu, le Seigneur de la vie, est au cœur de nos pires moments. Et c'est même là qu'il nous rencontre. Est-ce que de pouvoir prier Jésus et Dieu est la preuve d'avoir reçu l'Esprit Saint? Je le crois. Je crois que quand nous prions Dieu dans le nom de Jésus, c'est la démonstration que nous avons reçu l'Esprit Saint. Parce que je suis trinitarien, trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je le crois. Et une dernière question. Dieu versa-t-il, mais sans contradiction, il ne se renie pas? C'est même pas une question, c'est une affirmation à laquelle je dis un grand amen. Dieu versa-t-il, mais sans contradiction, il ne se renie pas? Amen. Et ce Dieu-là continuera de vous accompagner, chacun et chacune. Merci beaucoup pour vos super questions. On continue avec les slides, je crois. Oups.
Tu as fait un doigt, tu peux en faire un deuxième. Je crois que nous avons un chant maintenant. Non. Oh.
Je vous invite à chanter ensemble ce souffle nouveau, une autre interprétation, un complément d'interprétation de ce que vient de nous dire Philippe.
Près de toi, et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit. un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Et je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
On arrive au temps de quelques annonces. Vous pouvez vous rasseoir. Il va y avoir les pots aussi qui vont passer. Alors pour l'offrande, les dons qu'on fait, ben c'est libre à chacun et c'est ce qui permet de faire fonctionner l'Église. Et chacun est libre d'y participer, son cœur. Quelques mots d'annonce. Premièrement, l'Esprit nous permet des fois de sortir de nous-mêmes, d'essayer de nouvelles choses. Il y a de la place dans l'Église pour sortir de nous-mêmes. N'hésitez pas si vous sentez un appel pour vous engager, que ce soit pour les potes, pour les coordinations de culte ou encore d'autres choses. Je crois que les groupes de nettoyage, c'est à peu près bon, mais ça peut aussi faire partie de la vie de l'Esprit de participer à ça. Voilà, donc l'Esprit qui se manifeste aussi de différentes manières. Donc si jamais, n'hésitez pas à venir voir un des responsables de ces groupes ou de l'Église. Dimanche prochain, ce sera le 31, il y a un repas communautaire, un repas canadien. Et pour ce dimanche, ce qui change, c'est que comme il y a une thématique sur la prière, il y a une prise en charge pour les enfants qui est organisée. Donc voilà, vous pouvez venir avec des enfants et avoir du temps. Merci à ceux qui s'occuperont des enfants. Et puis encore un autre dernier mot pour Mérin-les-Bains. Je te laisse rapidement faire un tour. Si vous êtes de Mérin, vous connaissez certainement Mérin-les-Bains. Et d'un peu plus loin, peut-être pas. C'est cet été. Et je te laisse quelques mots.
Oui, alors notre église réorganise cette année, donc Mérin-les-Bains sera présente à Mérin-les-Bains. Ce sera le mardi 7 juillet, donc nous aurons une journée à disposition avec l'église évangélique de Mérin. Alors elle commencera à 14h30, donc ce sera, je vous rappelle la date, le 7 juillet, un mardi 7 juillet. Alors notez bien sur vos agendas, donc ce sera l'église évangélique de Mérin qui sera présente. Celle-ci organisera la buvette des 14h30 jusqu'à 23h, une animation l'après-midi avec Tricot & Co. Alors je ne sais pas si Annick est là ou si Anne-Marie, enfin ce sera super parce que c'est Tricot & Co qui sera organisé. C'est joint à ce groupe une société de filage avec rouets et fuseaux, donc ça va être très cool d'avoir ces deux sociétés ensemble, de pouvoir voir de comment on file la laine et ensuite comment on la tricote. Donc ça va être très cool. Ensuite, avec Michel Cretigny et Elisabeth, donc il y aura la raclette et tartette au citron. Et pour la fin, donc il y aura un ciné-transat avec le film Divertimento. C'est un très joli film où une jeune fille algérienne souhaite devenir chef d'orchestre. Donc c'est toute une très belle histoire. Donc Je vous encourage vraiment à réserver cette date du 27 et il y aura un très beau programme pour l'Église évangélique présente sur ce site. Donc c'est derrière le centre commercial de Mérin, derrière le centre commercial, et vous ne pouvez pas le manquer parce qu'il y a des tentes, il y a une cuisine, il y a plein de choses. Donc réservez cette date du 7 juillet. Merci. Merci. Peut-être juste une dernière mot. Donc pour organiser ça, il y a besoin de bénévoles. Donc je vais faire appel à vous pour notamment tenir la buvette ou d'autres activités. Merci.
J'allais rajouter. Merci. Je vais prier encore pour l'offrande. Merci Seigneur pour cet argent, ces dons, cette offrande que nous pouvons te faire. Aide-nous à être généreux dans tous les domaines de notre vie, en se souvenant que c'est toi qui pourvois. Aide-nous à te faire confiance. Et en ce qui est de l'argent, en ce qui concerne l'argent, aide-nous à le gérer de manière sage. Permets-nous aussi en Église de le faire de manière sage, de gérer cet argent et qu'il puisse porter du fruit. Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer. Pour l'envoi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, que nous puissions recevoir cet esprit, qu'il nous remplisse justement de ça, dans notre vie de tous les jours, dans notre témoignage, mais qu'il nous permette aussi d'être assurés de son amour, de vivre sa présence et de nous approcher de lui comme d'un père qu'on peut appeler familièrement papa. Car si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée à nous. Alors bonne journée, bonne fête de Pentecôte et bonne semaine remplie de son esprit.